L'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Et oui, l'Afrique dans tous ses états, c'est toujours avec Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour Guylaine, bonjour à tous.
Et en face de vous Marie-Claude, votre invité du jour, Patrick Darlot. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Bienvenue dans nos studios.
Merci.
Ils deviennent rares les personnes qui osent franchir ce studio aujourd'hui.
Pourquoi ?
Ils ont peur.
Peur de quoi ?
Tu savais, c'est une bête dans l'air, là. Pourtant, on aère, on fait des chip-chip partout, on a protégé nos micros, tout.
On
a mis du gel partout, voilà. Oui. Mais vous venez, merci.
Ouais.
Nous, ça nous fait plaisir, Marie-Claude. Hein. Alors,
oui,
Marie-Claude,
ça fait plaisir.
Patrick, qui est ce Patrick ?
Alors, Patrick, c'est un ami de longue date, voilà, et nous nous sommes rencontrés, alors je ne sais même plus si c'est autour des Péruviens ou autour des Africains, parce qu'il y a eu un concours de circonstances une année où vraiment, il y a eu tout le package là, voilà, qui a fait que...
C'était Irénée en fait, qui a servi.
Oui, voilà, c'est un ami voilà, qui a servi d'intermédiaire.
Irénée, le compteur,
voilà,
Montpellierin.
Compteur et Montpellierin, voilà. Et donc, ce qui nous a encore plus réunis, ça a été évidemment cet amour inconditionnel de l'Afrique, mais en plus du même pays, je suis désolée, hein, du Burkina Faso.
Vous êtes monomaniaque, hein.
Même si ce que fréquente Patrick, en fait, les endroits où il se trouve n'ont rien à voir avec les miens, parce qu'il y a quand même une grande variété là-bas, que ce soit linguistique, que ce soit ethnique, que ce soit un petit peu de tout, et donc culturel aussi, et voilà, et donc autour de ça, et voilà. Et alors j'aimerais qu'il se présente, parce que en plus Patrick a une connaissance et a œuvré autour d'une pratique africaine ancestrale, qui est la pratique des masques, donc, qui continue d'ailleurs, qui se perpétue avec encore beaucoup de force. Et j'aimerais bien qu'il nous explique, hein, moi c'est ma curiosité naturelle, sûrement que je ne sais pas tout de lui, comment de France, avec l'accent qu'il a, ce n'est pas du tout l'accent du Sud en plus, pour traverser la Méditerranée c'est déjà un peu plus compliqué, et comment il est parmi nous, comment j'ai pu le rencontrer au travers de ce pays, de l'Afrique.
À vous, voilà. Patrick.
À vous,
alors,
Patrick.
Vous avez un sacré programme. Hein, oui. On est ensemble.
Voilà. Ah non, mais moi, je suis de ce côté-là, je suis un pur produit français qui est un espèce de mélange, né parisien, parce que papa bourguignon, plutôt papa parisien, mais d'une famille bourguignonne à côté d'Auxerre et puis d'une maman belge. Et puis, arrivé dans le Midi à cause du Larzac. Hein, donc, c'est. Effectivement, j'ai l'accent du Nord. Enfin, plutôt, les gens de la Couverturade, où j'ai vécu 10 ans au moment du Larzac, c'était un jour, on avait discuté d'accent et elle me disait, moi j'ai un accent pour vous. Mais elle me dit, non, vous avez pas d'accent, vous parlez avec l'accent de la télévision.
Ça, c'était mignon.
Donc, effectivement, c'est l'accent de référence. C'est-à-dire qu'il faut être très clair que le message culturel français, il a été... il est destructif à un point qui est incroyable, hein, parce que moi, je suis arrivé sur le Larzac, il fallait parler occitan avec les gens, hein, mm-hmm. parce que sinon... Et à l'heure actuelle, j'ai fait partie du grand remplacement. c'est les gens du Nord qui sont maintenant dans le Midi. Les gens d'origine du Midi sont minoritaires. Mm-hmm. Et moi, je suis né à Paris, et j'ai toujours vécu mes vacances d'enfance en Bourgogne, à la campagne. J'ai découvert que j'étais un rural, hein, puis Paris de mon enfance, des Paris village, il n'existe plus du tout. Il a disparu dans les années 90. Mmh. Mais à partir de ce moment-là, je suis un pur produit français. Pour moi, l'Afrique, c'était inexistant. Ce n'était pas du tout une question d'être contre. C'était un continent blanc.
Ouais,
c'était pas un continent noir.
Ça faisait pas partie de votre univers.
J'avais strictement aucune attache et je connaissais rien. Puis bon, ce qui m'intéressait, c'était on peut dire, le côté vivre à la campagne avec un monde rural qui avait en grande partie disparu. Dans le village de mes grands-parents, quand j'étais petit, c'était des bocages et puis on pouvait se cacher. Et puis, quand j'ai eu 25 ans à la fin de mes études d'ingénieur, quand j'ai voulu revenir à la campagne, bon, d'un côté, il y a ma grand-mère qui m'a interdit le territoire, parce que voilà, c'était elle qui était chef du territoire. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, c'était devenu une zone de culture extensive dans laquelle les champs faisaient 15 hectares là où il en faisait un demi avant. Et en fait, je suis venu militant, entre guillemets, sur l'Arzac et puis j'y suis resté. Et en fait, c'est parce que j'ai retrouvé là une fraternité et puis une vie dans un monde qui n'était pas devenu une agriculture industrialisée.
Alors, j'ai une question là. Alors, c'est peut-être une question un peu anecdotique et un peu décalée par rapport à votre projet d'entretien.
Le décalage, ça me dérange pas. Enfin, moi, ça me dérange pas.
Qu'est-ce que c'est que cette expression ? Votre grand-mère était la chef du territoire ? Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire que je suis dans un clan familial classique français, c'est-à-dire catholique et matriarcal. Contrairement à ce qu'on raconte, les hommes, ils ne comptent pas dans le monde catholique. Ils assurent le blabla extérieur, mais ceux qui dirigent la maison, c'est une gérontocratie matriarcale. C'est exactement d'ailleurs ce que j'ai retrouvé en Afrique. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle je me sentais sans aucune difficulté à ce niveau-là. La France croit qu'en fin de compte, on a du patriarcat. Ça, c'est du baratin d'intellectuel. Ça a toujours été dans les clans français, la grand-mère qui dirigeait l'ensemble. Et donc, moi, je voulais m'installer dans la maison familiale de vacances, puisqu'elle habitait à l'année à Paris. Je me suis fait jeter. Et puis, quand on a 20 ans, on est vexé. Qu'est-ce qu'on fait ? On se tire. Et puis, où est-ce que je suis parti ? Là où, en fin de compte, il y avait un militantisme qui me plaisait, qui était celui de ça. J'avais parfaitement compris que ma formation d'ingénieur me servirait à pouvoir faire ce que je veux de ma vie, mais pas du tout à devenir ce que j'étais prévu, c'est-à-dire qu'on pourrait dire chef d'atelier dans une usine. Donc, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'avais découvert la Lorraine par le fait que j'ai fait mes études d'ingénieur à Metz, et qu'effectivement, là, j'ai découvert tout de suite que entre ma famille belge, qui n'existe pratiquement plus, ma culture de Parisien, ma culture de campagne bourguignonne, ma culture lorraine, la culture... en fin de compte, le monde était extrêmement divers, et que le système mental, si on commençait à se prendre le chou intellectuellement, on n'allait pas s'en sortir vivant. Que par contre, si on vivait avec les gens pour vivre avec les gens, et que surtout pas revendiquer sa différence, mais accepter sa différence et accepter la différence de l'autre, ça posait plus aucune difficulté. Mais ça n'a jamais été intellectuel de ma part. C'est parce que les gens après m'ont posé des questions d'histoire de racisme ou autre que je me suis posé la question. Non, ça fait des gags. Le grand gag le plus classique en Afrique, c'est que j'oublie que je suis noir, que je suis blanc chez des noirs. Donc effectivement, à Ouaga, je comprends pas pourquoi les gens me regardent. À Boromo, je me dis mais où est-ce qu'on va se retrouver ? Alors eux, ils sont tous morts de rire parce que je suis seul blanc dans la zone à 50 km. Effectivement, ils savent tous où je suis et ce que je fais, quoi. Mais moi, j'y pense même pas, quoi. J'ai jamais d'idée sur le fait que je puisse être d'une couleur différente. Ce que j'ai raconté à Marie-Claude, avec les Noirs africains, sud-américains que j'ai vus à cause des Noirs africains. Un jour, je me suis retrouvé avec Sandoval qui m'emmène chez sa sœur. Et puis, donc c'est... Dans la zone noire péruvienne, dans la banlieue de Lima, je sors de la voiture et je vois que les gens sont extrêmement surpris de ma présence, alors qu'en fin de compte, tout le monde m'attend depuis 2 ans parce que je suis celui qui a aidé Lucho à venir en France, etc., etc. Et puis bon, ça s'arrête là, quoi. Et puis on mange tranquille. Et puis à la fin du repas, à un moment où on se retrouve tous les deux, elle me dit « Mais tu sais quelle est l'histoire cocasse de la journée ?» Je la regarde un peu surpris, en ne comprenant pas. Et bien, c'est que tu sois blanc. Parce que tout le monde ici t'est persuadé que tu souhaites que t'étais noir, vu ce que racontait Sandoval.
Tu n'étais, ouais, vous ne pouviez être que noir pour avoir fait cela.
Bah oui, mais bon, moi je me suis jamais posé la question ainsi. Voilà, ouais. Ça m'a valu quelques gags, jamais négatifs, mais bon, des fois des trucs effectivement qui étaient assez étranges. Ouais. Mais bon, voilà, c'est
Et cette facilité d'approche avec un homme donc de couleur noire, comme vous dites, est-ce que vous l'avez aussi avec des personnes d'une autre culture, comme le continent asiatique? ou du côté de l'Extrême-Orient?
Alors, il y a une partie dans laquelle je ne pourrais pas vous répondre parce que ça m'est jamais arrivé.
Ouais.
Mais je n'ai pas de facilité. C'est de l'inconscience, peut-être, à la rigueur, mais dire, c'est. Voilà, c'est ben, les gens, ils sont différents. Et alors, où est le problème? Moi, je sais très bien que je suis complètement différent des autres, quoi. Je sais très bien que je suis un vieux mâle blanc français et que je ne comprendrai jamais rien aux femmes.
Occidental.
Il n'y a pas plus de différence entre moi qu'avec une femme. Donc, je veux dire, de toute manière, je sais très bien que je ne comprendrai rien au film. Donc, le problème dans cette histoire, c'est de trouver une composition qui fasse que, effectivement, ça se passe bien et puis qu'on a le plaisir de la différence. Moi, je veux dire, ce qui m'intéresse du maire, absolument pas formalisé intellectuellement, avec une femme, avec un Africain, avec un Sud-Américain, c'est le fait qu'il m'ouvre des portes à des choses auxquelles je n'aurais pas accès. Ah ben mince, alors, ah ben on peut être noir, ah ben on pense pas comme moi. C'est ce côté-là qui est intéressant, qui m'amuse. Ben, je suis chef du village. Puisque je suis maire d'un village de Cévennes. Mais il n'y a aucune différence. Je ne vois pas d'une plus grande différence entre les habitants du village au fond des Cévennes que ma différence avec les gens de Beauromont qui sont au fond de la Beauce africaine. C'est le même type de rapport. Mmh. Simplement, effectivement, ils sont différents. Ils sont cueilleurs-chasseurs d'une manière différente que les cueilleurs-chasseurs africains. Mais pour moi, c'est une zone d'étonnement et donc d'intérêt. Mmh. Parce que ce qui est intéressant, justement, c'est qu'ils sont différents. C'est-à-dire qu'ils m'apportent une richesse auquel moi, je n'ai pas pensé.
Je ne sais pas si vous avez suivi cette polémique qui, finalement, a fini par se tarir sur la traduction du poème de Amanda Gorman, poétesse noire qui a fait ce poème pour l'investiture de Joe Biden. Et qui ensuite devait être traduit, notamment en français ou dans d'autres langues. Et il y a, non pas elle, je crois, mais...
Non, c'est pas elle, c'est pas
une de ces, une personne a dit, mais il est inconcevable que ce ne soit pas une personne noire qui traduise ce poème. Il n'était absolument pas audible que ce soit une personne de couleur blanche. Il fallait qu'elle soit femme, il fallait qu'elle soit noire, il ne fallait pas que ce soit un homme, etc. Comment vous auriez réagi, vous avez réagi?
Ah non, moi je n'ai pas réagi, bon, je ne suis pas au courant de ce truc-là, mais je veux dire, on est dans un délire absolument compulsif qui est pour moi à la limite de la folie. C'est-à-dire que de toute manière, même avec. J'aurais un jumeau, je suis différent du jumeau. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette salade de vouloir penser que les autres doivent agir? Il s'agit sur des critères personnels. Une traduction, moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement si la traduction va m'apporter quelque chose et qu'elle ne va pas trahir, entre guillemets, la pensée de l'autre, ce que je ne peux pas savoir, puisque justement, je ne parle pas la langue, donc je suis obligé de faire confiance au traducteur. Je veux dire, qu'en Afrique, la zone où je vais, il y a à peu près une soixantaine de dialectes. Il y en a 5 principaux, c'est-à-dire que ces gens-là qui sont bien sûr pas été à l'école, ils sont bien plus forts que moi puisqu'ils parlent couramment 5 langues. Et ils parlent couramment 5 langues qui ont en plus dans
après,
ce cas-là
deux
grands systèmes de pensée qui sont différents. C'est-à-dire que deux structures de langage qui n'ont rien à voir. D'un côté, il y a toutes les langues qui sont type mandingue, type bobo, etc. etc. Et puis de l'autre côté, il y a les langouiniens, etc. Et puis d'autre côté, louiniens, gurunsi, etc. Mais le terme de gurunsi pour eux est dévalorisant. Mais pour nous, c'est une facilité ethnographique de définir une zone. Et puis après ça, il y a tout l'ensemble du groupe des Mossi qui se pensent être les chefs du monde. Donc ces trois groupes-là, c'est des groupes qui, en fin de compte, ont des systèmes linguistiques complètement différents, avec des systèmes de pensée complètement différents. Il faut bien qu'ils adaptent une tradition de l'un à l'autre. Et puis, pour vous donner simplement la compréhension, dans les langouiniens, le conditionnel et le futur n'existent pas. Absolument logique. Quand vous êtes dans une culture de survie, ce qui compte, c'est le passé, parce que c'est celui qui va permettre de pouvoir restructurer le groupe et de rappeler les choses, d'où les griots. Et puis après ça, c'est l'immédiat.
Mais on peut peut-être dire ce que c'est qu'un griot, Patrick.
Alors le griot, c'est en fin de compte, c'est expliquer. Alors c'est à la fois un sous-groupe ethnique qui et ils sont très revendicatifs de leur on pourrait dire originalité, dont le rôle dans l'ensemble de la société est d'assurer la mémoire. Alors, effectivement, nous, on les connaît à travers tout ce qui est la partie musicale, parce qu'effectivement, ils sont censés être les seuls qui ont le droit de faire de la musique, qui est d'ailleurs une musique dont le rôle social est de rappeler la grandeur du chef. Mais, en fait, il y a plein d'autres qui font
des troubadours, ce sont des troubadours,
voilà.
Finalement.
Mais, ils sont vraiment la mémoire. C'est, on pourrait dire, c'est les huissiers de justice et les notaires de l'Afrique.
Ouais,
hein,
ouais,
ça, c'est important. En fait, il s'avère qu'il y a plein d'autres gens qui font de la musique, il y a plein d'autres gens qui chantent et qui dansent, il y a plein d'autres choses. Mais ils ont un rôle particulier qui est celui de la mémoire. Et donc, ils sont très revendicatifs de leur pouvoir, entre guillemets, par rapport à ça. Et c'est un pouvoir qui est basé beaucoup sur la bière de mille et sur les billets de banque qu'on leur donne. Hein.
Exactement.
Faut être dramatique à un moment.
Mais bien sûr, oui. Non, mais c'est effectivement, c'est des notaires qui défendent le fonds de commerce.
Et d'ailleurs, dans les versions modernes, parce que ça, c'est vraiment la tradition, ce dont parle Patrick, dans la version moderne, c'est que dès qu'on a un événement, que ce soit un mariage, un baptême, etc., on fait venir un griot qui, normalement, est de la caste des griots, ou une griotte, et comme dit Patrick, y a la bière de mille coule à flot, la bière coule à flot, et les billets, voilà, et les femmes, elles mettent ça dans leur soutien-gorge, etc. Enfin bon, c'est quand même assez rigolo.
Et comme disent souvent les Africains, donne-lui à boire
au
griot, mais c'est pour qu'il se taise, parce qu'au moins pendant qu'il boit, au moins il ne chante pas, il ne nous casse pas les pieds. Donc là, il y a tout un rapport qui sont des rapports à la fois basés sur l'humour et basés sur le truc, mais qui, dans certains cas, sont une manière de remettre chacun à sa place. Hein.
Et d'ailleurs, on a parlé avec Patrick, et puis bon, quand on connaît bien le pays, c'est ce qui se passe. C'est que bon, cette façon de se charrier, de se remettre en boîte, etc. Alors, on en a déjà parlé, la parenté à plaisanterie, qui fait que chaque... voilà, il y a des ethnies qui sont à coquiner pour justement se charrier, s'insulter, etc. Et c'est vrai que, dans la culture de ce pays-là, c'est très... très très présent. Et on parlait justement quand on a cette habitude-là, enfin quand on est très habitué, comme Patrick peut l'être, ou qu'on envoie des vannes aux autres, les Européens qui sont là souvent sont surpris.
Ça m'a vu des pépins, même familial, avec ma fille, en disant mais t'es condescendant avec eux. Non, j'étais simplement en train de les charrier, exactement comme si c'était moi, blanc et occidentaux. Donc effectivement, on est dans un système qui est tellement antiraciste qu'on finit par, en fin de compte, devenir, pour moi, raciste par rapport à ces gens-là, parce que on n'est plus naturel, on n'est plus en train de faire la relation qu'on a normalement avec eux. Mmh. J'accepte, parce que de temps à autre, moi, je passe complètement à côté. Quoi. Mmh. Et non, avec Théo, qui est un de mes meilleurs copains, Batiqué, qui vient tous les ans ici, pas trop ces années-ci, avec
les problèmes
du Covid,
mais...
c'est un de mes meilleurs copains, on passe son temps à charrier en permanence, mais exactement comme je le fais avec n'importe quel blanc, entre guillemets. Le problème, pour moi, il n'est pas là. Quoi.
Sauf que ce n'est pas la même façon, ce n'est pas les mêmes thèmes forcément.
Il y a toute une série de clichés sous-entendus, il y a culturellement plein de gags à clé, et dans certains cas, et là on retombe sur la parenté à plaisanterie, les gens se voient engueuler au milieu d'un marché. Et puis tout le monde est absolument mort de rire après, et le blanc qui arrive là, il comprend rien. Mais non, c'est une parenté à plaisanterie, c'est-à-dire que les deux, en fin de compte, se disent « Toi, t'es l'esclave, fous-moi la paix, donne-moi à manger. »
Ils sont insultés.
Et vraiment, dans des termes qui, à la limite, seraient insupportables pour nous, non, c'est des conventions qui sont faites pour désamorcer des conflits en les exprimant. Et après ça, tout le monde est mort de rire. Je veux dire, Laurentine, avec qui j'ai fait énormément de choses, et hélas, morte du sida, je lui disais, mais arrête d'acheter des sabots, moi j'ai plus assez d'argent. Quoi, parce que, effectivement, les Gurunsi achètent des sabots. Ben, achètent les sabots tout le temps, mais après, les sabots, il faut les nourrir. Donc, je veux dire, ça. Bon, et ça, je veux dire, les gens, quand tu es au milieu du marché en train de boire une calebasse et puis tout d'un coup, tu dis, mais arrête d'acheter des sabots, personne ne comprend rien. Sauf que tous les Africains sont morts de rire. Quoi. Parce que c'est simplement une convention qui est liée à parenté plaisanterie.
C'est l'histoire de la culture. On partage une culture commune.
Vous avez 60 ethnies dans lesquelles les gens sont en survie. C'est-à-dire dans lesquelles, si vous bouffez, ou plutôt si l'autre bouffe et qu'il n'y a pas assez à bouffer, vous allez mourir de faim. Donc il faut trouver des systèmes de compensation et d'équilibre. Parce que sinon, on va fatalement tomber dans des systèmes de vie. de violence, en fait, parce que simplement, on est en train de survivre. Hein, donc, Et ça, c'est moi, je l'ai appris par eux. Parce qu'au départ, moi, je suis programmé comme un petit blanc français, égocentrique. si je me compare aux Français, je ne suis pas automatiquement nanti, mais je veux dire, par rapport à l'Africain, je le suis nettement. C'est ce côté-là. Mais l'important, c'est que moi, j'ai découvert ça par hasard.
Parce ça, c'est-à-dire ça, du quoi tout ça, cette
la culture, toute la culture africaine.
Cette ouais, culture,
le continent africain, il était blanc. Je veux dire, il était comme les explorateurs au XVIIe siècle, c'est-à-dire que bon, il y avait
sans nuance.
Mais non, je connaissais
uniforme,
pas.
Uniforme, oui.
Même pas uniforme. Il était inexistant.
Ouais.
C'était une page
transparent.
Une page. Je ne savais pas qu'il existait.
Transparent, ouais, c'est ça.
C'est tout à fait des hasards très 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 bizarres. On va dire copain, pas vraiment un ami, mais un copain qui allait en Afrique souvent, avait ramené dans ses bagages un Africain qui, venu d'une histoire un peu bizarre, on va dire, classique, autour de la drogue et puis d'une manière marginale, bizarre de vivre. Et puis, on s'entendait bien, Bomavé, c'est un... C'est d'une famille de sculpteurs forgerons Boaba. Il était là, puis il servait de manœuvre pendant certains chantiers d'été par rapport à ça. On blaguait ensemble, etc. Et puis, moi, j'ai une passion personnelle, le seul endroit où je me considère comme étant un tout petit peu capable de faire quelque chose, qui est la photo. Et Bomavé, il avait vu, en fin de compte, une partie de mes photos, parce qu'il y avait plusieurs copains qui m'avaient demandé de faire des tirages pour eux ou autre. Et un jour, on était en train de discuter à Saint-Boudet-du-Putois, il me dit, mais il faut que tu viennes dans mon village parce qu'il faut que tu fasses des photos de mes vieux. Mmh. Entre autres, parce qu'il avait des scarifications, ça, on pourra reparler sur l'esclavage, et ces scarifications, c'est quelque chose qui est en train de disparaître. Mmh. Attends. Qu'un Africain en visite en France me demande de venir faire du portrait de ses ancêtres, enfin de ses vieux, au moment où il m'a posé la question, c'était même pas concevable. Comment est-ce que moi, blanc, je vais faire de la photographie de l'intime? Parce que bon, faire du portrait des gens, surtout dans la condition de faire du portrait sur les scarifications, sur un élément qui lui-même faisant partie, c'est un peu comme si, en fin de compte, on demandait d'aller faire une collection de photos sur les tatouages des gens du village d'à côté. Quoi. Donc, le premier réflexe que j'ai eu, c'est de dire non. Et puis lui, il est revenu... Il n'est pas revenu à la charge de la manière des Blancs. Hein. Il n'est pas revenu à la charge en me disant « faut venir hein. ». Non, c'était beaucoup plus subtil.
C'est plus subtil que ça,
oui. Tout un système dans lequel, à un moment donné, il a fini par me dire « écoute, c'est la saison froide, c'est janvier, t'as rien à faire à ce moment-là. Moi, j'ai rien à faire parce que c'est le moment où il n'y a pas de culture, c'est le moment où on fait la fête, viens ». Je ne suis pas sûr que j'aurais été tout seul, mais à l'époque, dans les amis que j'avais, il y en a un qui levait des chameaux. Donc, on a fini par dire, tiens, on va aller passer 15 jours là-bas.
Il fallait bien trouver un prétexte.
Voilà, mais je dirais presque, je n'ai pas été en marche arrière, mais j'y étais, comme...
Pourquoi pas
C'était plus parce qu'il se passait une relation humaine importante et que c'était une manière pour moi de la prolonger. Il y avait des trucs qui m'intéressaient dedans. J'avais vu beaucoup de masques sculptés qu'il avait ramenés en copie. Alors, il ne sculpte pas les masques ici. Lui et ses frères, après ça, sont venus souvent. Il ne sculpte pas les masques ici. Sculptent les marteaux en Afrique pour des questions de rituels, mais c'est des masques qui sont désacralisés, hein. C'est des bouts de bois. Pour eux, ça n'a aucun intérêt, mais pour nous, les Blancs, ça nous fait un bel objet. Et puis c'est comme ça qu'ils font vivre leur communauté. Mmh. Et c'est-à-dire qu'une grande partie de ces gens sont vivent grâce non pas aux dons qu'on leur donne à la manière du blanc qui aide les pauvres, mais avec un échange. C'est-à-dire que ce soit des batiks, soit des sculptures, c'est des gens qui viennent vendre ici leurs production artistique, parce que on est à ce niveau-là, même si eux se voient plus comme artisans que comme artistes.
Oui, la notion d'artiste là-bas est
non,
très...
Non, la notion d'artiste,
alors qu'on voit des bronzies, enfin, on voit des types qui font
et
des choses extraordinaires. Oui, oui.
Elle apparaît maintenant et elle est plutôt en train de galvauder une culture parce qu'ils finissent par... Sous prétexte qu'ils sont artistes, ils font... Le paradoxe de drôle d'histoire, pour moi, ils deviennent artisans. C'est-à-dire qu'ils sont artistes parce qu'ils font dans leur culture, mais là, ils deviennent artistes à la manière d'artiste de galerie, c'est-à-dire qu'ils vont faire en fonction de la clientèle. C'est-à-dire qu'ils deviennent, paradoxalement, pour moi, ils deviennent artisans. Alors que pour eux, ils deviennent artistes. Mmh. Donc c'est là où c'est rigolo. La définition du mot dépend de la culture dans laquelle on est.
C'est rigolo. Et on va revenir sur plein de mots que vous avez lancés. Là, on reviendra sur tous ces mots dans la prochaine émission parce que le temps passe, Patrick Darlot.
Faudra qu'on attende.
Marie-Claude m'avait prévenu, mais c'est qu'il va falloir faire un petit
freinage.
Faudra
qu'on attende une semaine alors.
On attend une semaine et tout de suite, on écoute le choix musical que vous nous avez préparé, Patrick. C'est un choix qui va conclure notre émission.
Alors c'est ?
Alors c'est Banda Fossi, c'est une chanteuse qui est sud-africaine en fait. Je l'ai choisie là parce que c'est pendant des années, c'était la musique qui tournait en boucle dans les bus.
De
Burkina. Et donc, on ne pouvait pas prendre un bus sans prendre ça. Bon, c'est une musique qui n'a strictement rien à voir avec la musique parfaitement locale de là où je vais, mais qui montre bien l'intérialisation du symbole qui est le bus en fait, de transport.
En route,
À la semaine prochaine. Au revoir à tous. Merci Yann.